Claude Nougaro, en 1965, regarde là ma ville. Elle s'appelle Bidon, 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 Bidonville. Je ne sais pas si vous avez cette air en tête, en tout cas, ni ces paroles. En tout cas, c'est un thème que nous allons aborder aujourd'hui avec notre partenaire habituel, le CHS, Centre d'histoire sociale du XXe siècle, mais on peut le dire aussi du XXIe siècle. Nous allons aborder un thème universel, puisque ce phénomène touche plus d'un milliard d'êtres humains dans le monde, à la fois qui vivent donc dans des, essayons de faire une définition d'emblée, dans un habitat précaire et insalubre, du Brésil avec les favelas à Bombay, la moitié de Bombay, 12 millions d'habitants tout de même. La moitié de Bombay vit dans des bidonvilles. Il ne faut pas oublier l'Afrique du Cap au Caire. Il ne faut pas oublier non plus des habitats éphémères parce que férocement rasés, mais qui se reconstruisent en Asie, de la Chine à l'Indonésie, en passant par les Philippines. Mais avec nos deux invités, qui sont deux historiennes, Muriel Cohen et Charlotte Worms, elles sont spécialistes, en particulier, du lait, L-E-G-S, colonial. Et nous allons parler des bidonvilles en ce qu'ils sont une sorte d'héritage du fait d'une dimension véritablement coloniale les concernant. Le terme est né, alors les gens se disputent, en Tunisie disent les uns, au Maroc disent les autres avant-guerre, pour franchir la Méditerranée et bidonville s'installer dans le vocabulaire de la métropole après-guerre. Et aujourd'hui, dans l'ancienne puissance coloniale, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de retour de bâton. Et je voudrais que nous partions donc de cette situation française où l'exode rural, l'immigration et donc, et peut-être surtout, l'héritage colonial se mêlent et se tressent, Charlotte Worms.
Alors, l'héritage colonial, et vous l'avez bien souligné, le terme bidonville vient du Maghreb colonial. Toutefois, la chose, c'est-à-dire des maisons autoconstruites, inconfortables et mal équipées sur un terrain, alors vous l'avez peut-être, vous l'avez pas dit, peut-être peut-on l'ajouter, dans des conditions de légalité douteuses, voire carrément dans l'illégalité, ce qui est quand même un élément important de ce type de quartier, existait avant. Et ce qui est intéressant, c'est que l'objet change de nom alors dans un moment qui va entre les années 30 et les années 50, on va dire, parce qu'il arrive dans les valises des fonctionnaires coloniaux, précisément parce qu'à partir des années 50, on remarque que dans ce type d'habitat, il y a beaucoup de Nord-Africains, de FMA, de Français musulmans d'Algérie notamment, et comme les gens sont attentifs à ce qui se passe à ce moment-là en Algérie, eh bien, la chose semble changer, on l'identifie comme un objet nouveau. Voilà.
On pourrait même dire, si je peux me permettre, qu'on prend en considération ce type d'habitat précisément parce que c'est des migrants coloniaux qui sont à l'intérieur au moment justement où on entre dans la montée du nationalisme et où on va arriver dans la guerre d'Algérie. Et j'ai retrouvé dans le livre de Jim House et Neil McMaster l'origine, ceux qui auraient transféré le terme de bidonville. Donc c'est des fonctionnaires coloniaux qui bossent, qui travaillent, excusez-moi, pour le Bureau des Affaires indigènes, qui ont été formés à l'école coloniale par le sociologue Robert Montagne, qui ont été dans les SAS, ce qu'on appelle le service des affaires spécialisées, puis à Casablanca, et qui sont recrutés par la préfecture de police. Ensuite, pour diriger les services d'assistance technique, qui sont l'équivalent des SAS en métropole. Donc, il s'agit de Hippolyte Béranguier, qui est identifié vraiment comme tel, et qui transfère ce terme de bidonville, qui l'impose en fait en métropole, après l'avoir utilisé dans les colonies.
Vous parliez de certains critères. Un autre critère que nous n'avons pas encore abordé, mais il va peut-être de soi, on est plutôt à la lisière. Vous avez parlé de quartier, Charlotte Worms. Mm-hmm. On est plutôt à la lisière qu'intramuros.
En fait, c'est, la question de la définition, je ne sais pas si on y reviendra, mais c'est vraiment une question centrale, puisqu'en fait, on met dans, derrière ce mot ou derrière le mot qui, s'est imposé, enfin, qui a été imposé par l'ONU, qui est le mot slum en anglais, des réalités extrêmement diverses. Et effectivement, la question de est-ce que c'est une zone, est-ce que c'est un habitat, est centrale. Est-ce que ça a à voir avec l'extension des villes, donc plutôt avec la périphérie, et donc avec la, est-ce que ça s'inscrit dans la vieille histoire de des faubourgs, des banlieues, etc. Ou bien est-ce qu'on est dans une logique d'habitat, auquel cas les constructions précaires dans les interstices des villes sont pris en compte. Voilà. Toute cette réalité qui est en fait très diverse rentre tour à tour ou pas dans l'objet considéré.
Mais je vais rebondir en me tournant cette fois-ci vers Muriel Cohen sur FMA, Français musulman d'Algérie, qui est une appellation qui est arrivée après cette véritable hybridation coloniale en ce qui concerne le statut de l'indigène, puisqu'il était sujet français sans être citoyen. C'est une fois qu'il est devenu citoyen que pour réussir à toujours le repérer, on avait forgé ce FMA. Et je me demandais, mais sans doute trouverez-vous là que j'abuse de la figure de style, mais qu'il y a comme une sorte de métaphore dans l'habitation et l'habitat de ce statut hybride. C'est-à-dire qu'ils étaient à la fois niés dans un entre-deux et ils sont logés dans un entre-deux qui les nie et les rend en partie visible et en partie invisible.
Alors,
vous n'êtes pas prête à me suivre.
Je ne suis pas tout à fait prête à vous suivre pour plusieurs raisons. La première, c'est que, d'abord, effectivement, on ne voit jusqu'à l'indépendance de l'Algérie que les Algériens, les Français musulmans d'Algérie en bidonville. Et en fait, il y a plein d'autres populations en bidonville. Il y a des Portugais, il y a des Espagnols, il y a des Italiens. Dès l'entre-deux-guerres. Mais surtout, la majorité des Algériens n'habitent pas en bidonville. Et aujourd'hui, on est vraiment très focalisé sur cette histoire, ce dont je peux que me réjouir, puisque c'est quelque chose qu'on a aussi longtemps oublié. Mais il y a à peu près 10% des Algériens qui vivent en bidonville. Les autres sont dans les foyers. Mais là aussi, c'est une minorité, beaucoup dans des hôtels meublés en région parisienne ou dans les taudis, en majorité, dans Paris ou en banlieue. Mais on ne peut pas assimiler, pour moi, le logement des Algériens au bidonville. En réalité, c'est plutôt le fait d'une minorité. Et ça s'explique... Alors, effectivement, c'est une époque où il n'y a pas beaucoup de... Français en bidonville, mais il y en a aussi. On peut penser au camp de Noisy, évidemment, de l'abbé Pierre.
Certes, mais pour revenir, et peut-être est-ce une idée coloniale et post-coloniale, mais les bidonvilles apparaissent comme des fiefs indépendantistes. Et quand on pense à cet événement de douloureuse mémoire que sont les paponades, le 17 octobre 1961, pardon pour le néologisme, il s'agissait véritablement de réprimer, quitte à les jeter à la Seine, une population vécue comme un danger sortant des bidonvilles. Et là, nous sommes dans l'exagération totale.
Mais justement, la réalité, c'est que au lendemain du 17 octobre 1961, auquel vous faites allusion... Les journalistes se précipitent dans les bidonvilles parce que, justement, effectivement, une bonne partie venait de Nanterre. C'est vrai. C'est le cas, notamment parce que c'était facile de mobiliser à Nanterre. C'était facile pour le FLN, c'était plus simple de mobiliser. On a effectivement des témoignages et des archives de police qui disent voilà, que les gens sont invités à sortir des baraques pour aller faire la manifestation. La plupart étant désireux d'y prendre part, certains y allant à reculons. Mais en fait, il y a plein de gens qui ne viennent pas des bidonvilles et qui viennent du reste de Paris. D'ailleurs, vous parlez de ceux qui sont jetés dans l'eau, alors au pont de Neuilly. Il y Il y en a aussi à Saint-Denis, mais en fait, les rassemblements, il y en a aussi dans le centre de Paris. C'est une manifestation multisite, en fait, exactement, à Opéra, etc. Et donc, tout le monde ne vient pas du tout. D'ailleurs, ceux de Nanterre, en fait, sont bloqués au pont de Neuilly et ne sont jamais arrivés dans Paris.
Mais justement, les bidonvilles, quelquefois, en allant un peu vite, on dit, bon, les Portugais étaient à Champigny, le plus grand bidonville, les Algériens et les Maghrébins étaient à Nanterre, mais c'est un véritable kaléidoscope. Il y a eu un magnifique documentaire sur les Portugais de Nanterre. Le réalisateur est ensuite revenu pour retrouver, le film a été diffusé sur Arte, la trace de ce qui avait été filmé. Donc il y a une espèce de brassage, de coudoiement continuel, non ?
Oui, absolument. Alors peut-être, oui, absolument, il y a des gens de partout. Il se trouve qu'en France, c'est une particularité si on compare à d'autres pays européens comme l'Espagne ou l'Italie. Enfin, en gros, les bidonvilles, c'est quand même un phénomène qui a touché principalement l'Europe méridionale entre les années 30 et les années 70-80 selon les pays. Et la particularité de la France, c'est que les habitants sont majoritairement des étrangers ou des populations coloniales, ce qui a évidemment un effet sur la manière dont on les considère et quant aux politiques qu'on va mettre en œuvre pour traiter la question. Et peut-être là, ça vaut quand même la peine de revenir à cette question du legs colonial pour dire une chose qui, pour le coup, est importante, c'est que le traitement des bidonvilles est extrêmement influencé par la guerre d'Algérie et donc par le fait, et ça il faut quand même le dire, par le fait qu'il y a une population donc de Français musulmans d'Algérie importante dans les bidonvilles et donc par conséquent certains sont contrôlés par le FLN ou en tout cas le FLN et le MNA y sont présents et donc il y a un impératif militaire, policiers et militaires, à traiter cette question des bidonvilles. Et c'est ça qui va conduire aux politiques publiques. Donc, à mon avis, le legs colonial de l'histoire des bidonvilles, il est là, en particulier. Alors, pour revenir à la question du côtoiement, les populations se côtoient, mais elles sont quand même... Enfin, chaque bidonville a une population généralement diverses, enfin, ça dépend desquelles, Muriel corrigera puisqu'elle connaît mieux que moi ces questions, mais toutefois, même quand les populations sont diverses, elles sont quand même regroupées par origine pour des raisons évidentes, puisque comme c'est un, puisqu'on est dans un marché du logement irrégulier, bien on arrive forcément parce qu'on connaît quelqu'un. Donc la logique des chaînes migratoires joue à plein dans ce type d'habitat. Voilà.
Est-ce que vous pourriez répondre en faisant une sorte de zoom ? Je crois que vous connaissez bien la situation de Nanterre. Mmh. Nanterre, je crois que c'est 1953-1972. C'est une vingtaine d'années, ce bidonville.
Oui, c'est à peu près ça. Alors, 1953, c'est vraiment les prémices, en fait. Le centre-ville de Nanterre est saturé, en fait, parce qu'il y a plein d'usines et donc les travailleurs viennent sur place. Puis quand on est en pleine crise du logement en France, hein, c'est aussi ça le contexte. Et dans une ville qui est vide, si on regarde les cartes de Nanterre à cette époque-là, c'est pas du tout aménagé.
Le contexte, c'est aussi, si je puis me permettre, la reconstruction.
Oui.
Et surtout, où il y a une espèce d'appel d'air où il faut absolument des travailleurs étrangers.
Tout à fait. Tout à fait. Il y a beaucoup de travailleurs étrangers et donc d'Algériens. Désormais, puisqu'ils sont devenus, comme vous l'avez dit, citoyens français à partir de 1946-47, qui peuvent circuler librement entre la France et l'Algérie. Et donc, ils vont venir très nombreux. Et donc, une fois qu'il n'y aura plus de place dans les hôtels meublés du centre-ville, on va commencer, notamment des Algériens vont commencer à construire des baraques sur des terrains vagues, dans différents quartiers de la ville, à la frontière de Colombes, donc dans une zone où il y a une zone qui est déjà très à l'abandon, où il y a la maison départementale qui est en gros un dépôt de mendicité, et sur d'anciennes champignonnières, donc des terrains qui sont non constructibles en fait. Et c'est là que commencent à apparaître des bidonvilles où il y a plutôt des hommes. Les familles, elles vont arriver, pour revenir au legs colonial, dans le contexte de la guerre d'Algérie, elles commencent à fuir les camps de regroupement. Ça, c'est Monique Carvaux qui a été. je fais souvent référence à elle comme à une établie. C'est quelqu'un qui a travaillé, qui n'est pas du tout avec les associations officielles pour le ministère de l'Intérieur. C'est vraiment quelqu'un qui vient s'établir au bidonville de Nanterre et travailler en collaboration avec les habitants. Et elle raconte voilà, que les premières familles arrivent en fait en fuyant les camps de regroupement. À partir de 1955, elles arrivent des Aurès. Et puis voilà, différents groupes. Alors c'est beaucoup aussi Marnia, autour, à côté du Maroc, et El Oued, dans le sud de l'Algérie, qui viennent s'installer là.
Il y a eu donc d'abord des hommes seuls qui sont venus au point de vue économique, mais tout de suite, au fur et à mesure, il y a eu ceux qui échappaient à la guerre. C'est un mélange. C'est pas simplement une immigration économique comme on la conçoit aujourd'hui.
Et donc on a une constellation.
Cette constellation, maximum, c'est 14-15 000 dans les années 60-65.
On est plutôt autour de 10 000. 14-15 000, c'est Champigny. On est autour de 10 000 à Nanterre, mais dans une dizaine de bidonvilles.
C'est ça, il faut déranger le pluriel. Hein. Les travaux,
c'est les bidonvilles.
À la presse qui dit le bidonville de Nanterre,
les travaux, les
historiens disent les bidonvilles.
Bien sûr, parce qu'ils sont situés vraiment, ils sont éloignés les uns les autres. Et ils ont en plus des fonctionnements assez différents parce qu'ils n'ont pas les mêmes installations. Et c'est là que je voudrais revenir à nous sur cette question du lait colonial. C'est que les bidonvilles de Nanterre, les bidonvilles algériens, sont traités différemment par les pouvoirs publics des autres bidonvilles de Champigny, où on sait qu'il y a eu pas mal d'aménagements qui ont été faits pour accompagner les habitants, notamment suite à des mobilisations d'habitants, mais aussi d'associations, et notamment c'était Geneviève Antonios de Gaulle, je crois, qui était impliquée sur place. Donc il y avait des antennes de la CAF, de la préfecture de police pour faire les papiers, du ramassage des ordures, un peu d'aménagement de voirie, ce qui n'a jamais eu lieu à Nanterre. Et là, le fait qu'on soit dans un bidonville très largement algérien et par la suite marocain, paraît quelque chose...
Mais les historiens ou les historiennes ont étudié cet aspect que vous venez d'évoquer et qui est très important, la collecte des ordures, par exemple. Mm-hmm. Et là, comment ça se passait?
Alors, oui, c'est très précis, mais effectivement, il semble qu'au départ, le maire de Nanterre, donc c'est Raymond Barbet, qui est un maire communiste à l'époque, ancien résistant... Voilà, s'est senti assez proche au départ de la cause algérienne, même s'il est dans une situation compliquée, puisqu'il a aussi des Nantériens qui partent faire la guerre en Algérie et voilà, qui sont soutenus par leur famille. Dans les premiers temps, il va essayer effectivement d'organiser un petit peu de la voirie, le ramassage des ordures. Et puis en fait, au bout d'un moment, on va considérer que c'est quelque chose qu'on va retrouver jusqu'en 1971-72, au moment où disparaissent globalement les bidonvilles de Nanterre, que c'est des populations qui n'ont rien à faire là, qui ne sont pas des Nantériens à part entière, qui sont une population illégitime qui doit être prise en charge par l'État. Et que donc, comme l'État ne s'en occupe pas, ne s'occupe pas effectivement de ramasser, de collecter les ordures, de faire ses propres aménagements, il va renoncer. Et largement. Alors, après, je pense qu'on pourrait faire là aussi, parce que je parlais de différence d'un bidonville à l'autre. Le plus grand bidonville, celui auquel on fait référence en général, c'est celui de la Folie, où il y a à peu près 5000 ou 6000 personnes qui se trouvent juste à côté de la préfecture actuelle des Hauts-de-Seine, et où il y a le parc André Malraux. Enfin, voilà, c'est le territoire de la Défense, quoi. Mmh. Et c'est celui-ci qui est vraiment l'espèce d'abcès où il y a aucune installation. Et effectivement, alors les gens se débrouillent. On voit des témoignages de gens qui vont louer une pelleteuse parce que voilà, ils travaillent dans le bâtiment, donc ils peuvent se débrouiller pour mettre les ordures plus loin. Mais c'est un facteur de tension très forte entre les habitants aussi.
J'avais recueilli le témoignage d'un commuteur, un banlieusard, qui me racontait comment, dans les années 60 jusqu'en 72, tout un wagon détournait le regard. Un peu gêné pour ne pas regarder le bidonville de la Folie. Vous avez dit qu'on a vu que ça s'arrête presque à la fin du gouvernement Chaban-Delmas. Ce n'est pas tout à fait hasard parce que c'est au départ Jacques Chaban-Delmas qui avait lancé cette grande idée d'éradiquer et de mettre fin aux bidonvilles. Est-ce que la fin des bidonvilles pourrait avoir, on a vu qu'il y avait un lait colonial, pourrait avoir avec mai 68, où tout à coup, une partie de la population a jugé inconcevable. Et puis, les pouvoirs publics se sont méfiés des gauchistes qui allaient faire des habitants des bidonvilles une espèce de... au gré d'un messianisme, faire une sorte de symbole des luttes à venir, une sorte de néo-prolétariat, de néo-lumpen à défendre. Vous croyez que ça a joué, cela ?
Ah oui, mais de toute façon, nous sommes historiennes, donc on est toujours convaincus que tout se tient, hein, on est bien d'accord. Donc oui, forcément. Mais je pense que je préfère laisser Muriel répondre sur cette question de 68. Mais enfin, juste peut-être un seul mot quand même. Dans le renouvellement du politique, dont mai 68 est autant un signe qu'un catalyseur, il y a quand même des mouvements sociaux importants qui viennent renouveler la politique dans les années 70. Or, les bidonvilles, les quartiers populaires, enfin les divers quartiers populaires, etc., et notamment face aux politiques urbaines, donc je pense à la fois à la rénovation urbaine des centres-villes et aux bidonvilles, sont des lieux où les gens se mobilisent, accompagnés par, Muriel citait tout à l'heure Monique Hervault, mais par toute une myriade de gens qui sont confessionnellement, politiquement, professionnellement très divers, mais finalement qui forment une espèce de milieu intermédiaire qui va accompagner ces mouvements sociaux-là.
Juste précision sur le confessionnellement. Ouais. Vous voulez dire on trouve des catholiques, des protestants, mais cela...
On trouve des catholiques, on trouve des athées déjà. Alors les protestants, je ne sais pas, là vous me posez une colle, il y en a certainement. Mais cette constellation qui est typique des années 70, et notamment cette jonction entre le catholicisme et le communisme qui est bien connue et qui est bien documentée pour des tas de pays et qui existe aussi en France. Voilà. C'était un peu à ça que je pensais.
Moi je réponds à partir des travaux de collègues Marie-Claude Blanchalère et Victor Collet, mais effectivement il y a au moment des grandes résorptions de 70, suite à la loi Vivien sous Chaban-Delmas dont vous parliez,
la loi s'appelle RHI, résorption de l'habitat insalubre, ouais, effectivement, qui date de 1970.
De juillet 70, effectivement, qui fait suite à d'autres tentatives, hein, en 64, notamment il y a la loi Debré, mais qui avait été moins efficace et accompagnée de moins de moyens et concentrée sur Champigny, justement. Mais donc un conseiller qui assiste à des résorptions dit... quelques mois d'agitation gauchiste ont fait plus pour la résorption des bidonvilles que des années de mobilisation des catholiques de gauche, en gros. Et effectivement, il y a un lien tout à fait direct dans ces mobilisations gauchistes, le fait qu'il y a des étudiants qui essaient de faire la jonction, pas forcément avec beaucoup de succès en réalité, avec les habitants des bidonvilles qui sont... Enfin, moi, ce que j'ai, c'est le regard de Monique Hervault là-dessus. Elle a aussi son propre regard, mais elle parle des actions de la gauche prolétarienne qui, par exemple, va piller Fauchon, vous vous rappelez peut-être, et déposer son butin dans les bidonvilles. Et les habitants des bidonvilles sont... c'est des travailleurs. Ils ont des revenus réguliers et stables. Ils sont pas en bidonville parce qu'ils peuvent pas payer leur loyer. Donc, eux... ils ont l'impression qu'on leur fait l'aumône et ils vivent pas ça bien du tout. Donc il y a une différence dans les générations. Alors, les enfants grandis dans les bidonvilles vont, pour certains, s'engager dans les mouvements gauchistes. Et effectivement, il va y avoir des craintes autour de ça.
L'épisode Fauchon, vous ne connaissez pas la date exacte, c'est dans les années 70.
C'est en 69-70.
69-70, ah oui, donc ouais. Vers la fin. Et donc nous avons vu qu'il y a 20 ans de durée de vie pour les bidonvilles de Nanterre. Les bidonvilles disparaissent dans les années 70. Mmh. Il y a 20 ans, 100 bidonvilles en France. Et dans les années 1990, reviennent des bidonvilles.
Oui. En fait, c'est difficile de savoir exactement parce que c'est des choses qui sont pas documentées. Donc, quand on regarde les objets, on a l'impression, pour la première fois, on a l'impression qu'ils apparaissent. Donc, est-ce que vraiment, je serais incapable de répondre et je suis pas sûre qu'on ait des... qu'on ait une mémoire. Voilà, non, mais qu'on soit capable.
Il y a pu y avoir des choses en tuiles en plus.
Oui, enfin, je veux dire, des gens qui construisaient des. des baraques dans des endroits sans que personne leur demande. Enfin, d'abord, il y a la question de la ville, puis il y a la question des milieux ruraux, du périurbain. Enfin, tout ça est un peu compliqué. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment eu un trou. Mais pour venir à la question des bidonvilles aujourd'hui, on aime bien, et notamment les gens qui s'intéressent aux bidonvilles qu'on trouve en France aujourd'hui, qui sont donc de plusieurs types. Je ne sais pas si on va y venir. Donc, il y a effectivement ceux qui sont liés au non-accueil des migrants et notamment des gens en demande d'un droit d'asile ou en transit vers l'Angleterre, évidemment, mais qui sont en attente d'un statut de réfugié et donc qui, en gros, ne peuvent pas travailler et, en l'absence d'un accueil organisé, se retrouvent dans une situation de précarité qui donne lieu à ces campements qui deviennent des bidonvilles. Et puis il y a un autre phénomène qui est quand même un peu différent, qui est celui effectivement de terrains vagues, d'interstices qui sont occupés par des campements de migrants venant beaucoup d'Europe, enfin d'Est de l'Europe, de Roumanie, etc., de manière saisonnière, et qui sont des situations un peu différentes. Alors, entre ces deux choses et les bidonvilles des années 50, et 60, à mon avis, il y a une très très grande différence. Donc on aime bien agiter le souvenir des années 50 et 60, du legs colonial, de politique à destination des étrangers pour faire la comparaison. On aime bien utiliser cette espèce de comparaison à des fins diverses. Je ne suis pas sûre que sur le fond, ça soit vraiment pertinent. D'accord. Pour vous dire deux éléments. D'abord, les populations ne sont pas les mêmes. Les populations des années 50-60, comme le disait Muriel, ce sont des travailleurs. C'est vrai en France, c'est vrai dans les bidonvilles d'Espagne, dans les bidonvilles d'Italie. C'est pas des marginaux ni des gens sans droit. Sans droit ou en creux de droit, pour les migrants en attente d'un statut de réfugié. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes logiques. Leur problème, c'est un problème de logement. Le problème des gens, des migrants en transit ou de ceux qui se logent actuellement dans les bidonvilles de Seine-Saint-Denis qui viennent d'Europe de l'Est, etc., c'est pas exactement un problème de logement, c'est un problème, en l'occurrence, de pauvreté, etc. Donc les politiques qui doivent. La politique qui manque à répondre n'est pas la même. Dans les années 50-70, c'est un problème de politique de logement. Aujourd'hui, je ne pense vraiment pas que ce soit un problème de politique de logement. C'est un problème de droit des étrangers, d'accès aux droits, etc.
Néanmoins, vous avez un collègue anthropologue, vous le connaissez fort bien, j'imagine, Michel Agier, qui a signé un texte dans Mediapart en 2015 à propos de la situation à Calais. Mmh. Et il parle de, je crois me souvenir, bidonville d'État. Et il insiste sur l'immobilisation d'étrangers en mouvement, sur la mise à l'écart violente, sur la séparation des migrants de la ville. Mais donc lui-même, par rapport à une situation ultra-contemporaine, va retrouver, en parlant de bidonville d'État, la notion de bidonville.
Alors il parle de Calais, qui est effectivement un cas quand même très particulier, puisqu'on est pas dans la ville, le bidonville de Calais ou la jungle de Calais. Alors la jungle de Calais, elle apparaît suite au démantèlement du camp de Sangatte en 2002. Elle dure jusqu'en 2009. Et en fait, c'est des campements dans la forêt autour de Calais qui vont être détruits en 2009 et se reconstituer. Ce à quoi il fait allusion en 2015, c'est le camp ferry qui est construit par l'État et autour duquel vont s'agglomérer, en fait, tous ces gens en transit qui arrivent d'Asie et qui essayent de passer en Angleterre. Donc, en fait, on est, comme le dit Charlotte, je pense, dans une situation qui est très, très différente. Et ce qu'il dénonce, effectivement, c'est que l'État ne prend pas en charge ces populations, ne donne pas les moyens nécessaires, et en plus, avec une politique migratoire totalement absurde qui crée cet abcès de fixation, mais... Le terme de bidonville induit pas forcément une continuité. Enfin, en fait, ce terme de bidonville, aujourd'hui, il est important. D'ailleurs, les associations se sont battues pour qu'on parle, notamment en Seine-Saint-Denis, pour les bidonvilles dits Roms, où il y a effectivement une majorité de Roms, qu'on parle de bidonville et pas de campement, ou campement illicite, comme le disait Sarkozy. Mais ça renvoie pas forcément... à la même réalité.
Je veux bien revenir aussi là-dessus. Le mot bidonville, la réalité de la manière dont ces gens vivent est certainement comparable à certains des bidonvilles, mais pas tous d'ailleurs, des années 60, parce qu'il y en a qui sont extrêmement, enfin, beaucoup moins pauvres matériellement que la jungle de Calais. Hein. Là, on est dans des conditions de précarité qui sont extrêmes, qui sont quand même assez loin du Champigny des années 60, hein, où il y avait bâtiments en dur, etc. Mais bon, pour revenir, le terme bidonville, il s'applique à une réalité matérielle. En revanche, les causes et donc aussi les solutions de cette réalité sont très très différentes. Alors, bidonville d'État, oui. Donc, il emploie le terme bidonville pour la chose matérielle, et aussi parce que, évidemment, c'est un terme épouvantail, donc qui a un effet politique. Mais je crois que ce qui est intéressant dans bidonville d'État, c'est d'État.
Vous avez parlé de jungle. Oui. Les puristes prononcent jongle. Oui. La jungle qui est en dehors de la ville. Mais du coup, certains parlent de jungle urbaine. Alors, que serait la jungle urbaine?
Alors, on parle de jungle. Alors, le terme, il a été... Voilà, on l'utilise maintenant beaucoup parce qu'il plaît, parce qu'il renvoie en plus à l'idée de danger, d'exotisme, tout ce qu'on veut. En fait,
sauvagerie.
Ça vient du persan jungle, qui veut dire la forêt. Donc c'est ça. Nous, on parle de jungle, mais en réalité, ça désigne vraiment la forêt au départ. La
c'est forêt juste de Calais, le mot des habitants, oui.
Et c'est le terme indigène, quoi, si on veut. Et le terme est resté. Alors, jungle urbaine, aujourd'hui... Pour moi, il y a la jungle de Calais, effectivement, mais je suis pas sûre que, quand on, ça désigne vraiment ce phénomène en particulier. Mmh. Pour parler des bidonvilles de région parisienne, on parle pas de jungle.
Non, mais c'est vrai que les mots sont, l'histoire des mots est toujours passionnante. Et donc, effectivement, là, on a la reprise de ce qui paraît-il était le mot par lequel les habitants désignaient l'endroit où ils habitaient. Et ça fait mouche, puisqu'évidemment, la jungle, c'est la sauvagerie, c'est l'état sauvage, urbaine, alors que, au contraire, l'urbanité, c'est tout le contraire. Donc, une espèce d'oxymore qui doit déclencher la sensation.
mais la sensation est très drôle parce que je recherchais sur jungle urbaine, justement, et je trouve sur Google des occurrences incroyables. Jungle urbaine, tendance déco 2016, déco Marie-France. Tendance jungle urbaine, le déco se met au vert. Un intérieur au thème de jungle urbaine pour les aimants du vert, etc. Et toute Google, à propos de cela, ne parle que
de
la main
si
verte.
Mais si je puis me permettre, ça fait un lien, qui est une connexion qui n'est pas complètement absurde, qui est celle de la mode du bricolage. D'accord. Donc aujourd'hui, on jardine, on bricole, tout ce qui est bottom-up est formidable, toutes les initiatives de façonnage de l'environnement de chacun ou d'un petit collectif très local est extrêmement valorisée. Et
la post-modernité, c'est Castorama qui en arriverait à...
Oui, mais...
Parrainer un bidonville, non, là.
Je vais aller jusqu'au bout de mon idée. Le bidonville aujourd'hui, c'est quand même la réalité, une des réalités urbaines dominantes de ce qu'on appelle les pays du Sud, pudiquement, qui sont eux-mêmes très divers. Or, dans ces pays-là, aujourd'hui, vous avez des gens qui défendent la créativité du bidonville, la manière de vivre, et vous évoquiez tout à l'heure, Muriel évoquait le fait de ramasser soi-même ses ordures, etc. Donc vous avez. Quand l'État fait défaut, ou quand les pouvoirs publics font défaut, forcément, les habitants s'organisent.
Le nec plus ultra du do-it-yourself.
C'est-à-dire que c'est intéressant, parce qu'il y a, une version un peu libérale, si vous voulez, mais pour moi, ce n'est pas un gros mot, ni un mot forcément péjoratif. Vous avez une vision libérale, qui a une histoire longue, elle aussi, qui remonte au moins aux années 70, avec l'idée qu'il faudrait encourager, en l'encadrant, etc., cette manière de faire de la ville, en tout cas, que dans les manière de faire dans ce bricolage et cette jungle urbaine, vous avez des éléments intéressants sur lesquels il faudrait s'appuyer pour faire de la bonne ville, etc., plutôt que de raser au bulldozer et de construire, si vous voulez, ce qu'on a construit dans les années 60, justement. Enfin, c'est une idée complexe qui a des tenants, enfin, qui a des ressorts politiques divers, des conséquences et diverses, mais c'est une idée qui existe.
Ce n'est pas la même chose quand 50% des habitants vivent dans une sorte d'habitat dit spontané ou illicite, et 6%, comme dans des pays plus développés. Effectivement, ouais. Il peut y avoir un discours tout à fait autre. Et on pourrait terminer justement en essayant de trouver une véritable définition, en écartant peut-être, parce que l'insalubrité, oui, l'insécurité, pas forcément, quand vous parliez de la sauvagerie, etc., ce qu'on trouve souvent, surpeuplement, dénuement, absence d'hygiène et de sécurité, c'est une vision d'un ordre très confortable devenu apeuré. Et comment arriver à une définition à la fois réelle, qui ne s'aveugle pas, mais qui soit plus empathique?
Déjà, il faudrait accepter de reconnaître la diversité de l'objet. Donc si aujourd'hui, dans des favelas, des gens peuvent dire qu'il faudrait regarder comment font les gens et qu'il y a des choses peut-être intéressantes à regarder dans la fabrication et l'auto-organisation des communautés, puisque c'est le terme qui à un moment a été promu, on est quand même très très loin de la jungle de Calais où les gens sont dans la boue et sont dans un état de précarité où on peut aller s'amuser à regarder comment ils décorent leur baraque. Enfin bon, quand même, là on est,
c'est quand même d'une instabilité totale.
Oui, puis c'est, enfin, je veux dire, là pour moi c'est obscène. Donc vous voyez bien qu'entre ces deux réalités qui portent le même nom, qui rentrent dans la même catégorie ONU slum, on a des réalités qui n'ont rien à voir. Rien à voir. Donc, on ne peut pas répondre à votre question. À mon avis, la réponse, c'est accepter quand même de regarder la diversité des situations.
Diversité et instabilité, je trouve que c'est vrai.
Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça. Et surtout, on est dans une politique de l'instabilité. C'est-à-dire que, autant dans les années 70, on s'est donné les moyens de résorber des bidonvilles qui on avait laissés. Se développer pendant une quinzaine d'années. Aujourd'hui, la politique de l'État, c'est d'empêcher tous les bidonvilles d'apparaître d'abord et ensuite de se stabiliser. Parce qu'une fois qu'il y a stabilisation, il faut reloger. Aujourd'hui, on ne reloge pas les habitants des bidonvilles. On les chasse et puis ils vont juste reconstruire un bidonville plus loin. Donc en fait, je ne suis pas forcément sûre qu'on puisse parler des bidonvilles comme de sas d'entrée dans la ville, comme c'est parfois le cas, ou de... Voilà, bon. Mais ce qui est sûr, c'est que ça peut être des lieux de stabilisation et que l'État fait tout aujourd'hui pour empêcher que ça soit le cas, pour que ça ne soit pas des lieux de rassemblement, pour qu'ils ne grossissent pas, et rendant la vie de ces gens totalement impossible. Et on est quand même dans une vraie différence là par rapport aux années 50-60, même si je n'idéalise pas loin de là la vie en bidonville à cette époque, mais en termes de prise en charge... et d'accès aux droits, ne serait-ce qu'à l'école.
Voilà. Qui est quand même l'argument principal pour la stabilité. Enfin, voilà. Des juristes, enfin, je veux dire, des avocats et des...
Quand on casse 5 ans, on déscolarise des enfants, quoi.
En tout cas, nous avons un début de définition, ceux à qui on rend la vie impossible. On est très loin de la définition de l'ONU, UN Habitat. Et vraiment, merci à toutes les deux. Et merci à la cheville intellectuelle de ces séances, Françoise Blum du CHS. À bientôt pour une prochaine émission.